Prenons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Donc nous arrivons à notre troisième et dernier jour du séminaire que nous avons commencé depuis vendredi, intitulé donc l'esprit de contrôle. Le premier jour, nous avions parlé des origines et nous avions apporté une définition. Et nous avons conclu, nous avons compris que l'esprit de contrôle a été manifesté dès le commencement lorsque Adam et Ève ont voulu être semblables, ont voulu être égales à Dieu. Le Seigneur leur avait donné une interdiction de toucher du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque le diable est venu tenter Ève, il lui a dit que si le Seigneur sait que si vous mangez de ce fruit-là, eh bien, vous serez comme lui. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, les yeux de la femme se sont ouverts et ont vu que le fruit était bon à manger. Et ils ont fini par, se détourner de l'ordre du Seigneur et manger de ce fruit-là. Or, le Seigneur avait donné l'avertissement que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ainsi, le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel que nous le connaissons, avec ses douleurs et ses malheurs, sont la conséquence de la désobéissance de Adam depuis le jardin d'Éden. Donc Adam a voulu sortir de l'autorité de Dieu. Il n'a plus voulu que le Seigneur soit son chef, mais il a voulu lui-même être son propre chef, il a voulu égaler Dieu. Et c'est de là, dès le commencement, que nous voyons une manifestation de l'esprit de contrôle, c'est-à-dire la volonté de se gérer soi-même et par conséquent, la volonté aussi de vouloir gérer Dieu. Puisque dès l'instant où nous décidons de faire les choses comme nous nous voulons et non pas comme le Seigneur le veut, c'est une manière de vouloir contrôler Dieu. C'est comme si Dieu s'était trompé et nous voulons en quelque sorte refaire le monde, refaire la vie à notre mesure, à notre convenance, parce que c'est ce qui nous convient. Et c'est de là où nous entrons dans le domaine du contrôle, nous sortons des Écritures, nous sortons de la parole de Dieu et nous commençons à emprunter des voies détournées pour assouvir notre convoitise, pour répondre à notre convoitise. Certains refusant de se limiter dans tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu, dans la condition que Dieu l'a laissé, certains vont utiliser des moyens détournés pour contrôler leur avenir. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui qu'il y a tant et tant de maisons, de médiums et de voyants, parce que l'homme a cette volonté-là de connaître l'avenir pour mieux contrôler sa vie, pour mieux gérer sa vie. Et c'est là, vouloir sortir de la volonté de Dieu, alors que pour nous aujourd'hui, la parole est la limite que Dieu nous a fixée. Par les Écritures, nous pouvons savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. De la même manière que dans le jardin d'Éden, l'arbre qui était là, de la connaissance du bien et du mal, était un signe, était la limite que Dieu avait fixée à Adam. Donc à chaque fois que Adam était en face de cet arbre-là, cet arbre lui rappelait qu'il avait une autorité et que cette autorité avait fixé des règles. Et de cette même manière que nous, nous avons aujourd'hui les Écritures, et lorsque nous méditons les Écritures, que nous lisons les Écritures, nous pouvons voir et nous pouvons comprendre les limites que Dieu nous a fixées. Mais voulons dépasser ces limites-là, parce que l'homme ne veut pas se maintenir dans la condition dans laquelle Dieu l'a laissé, il va utiliser des moyens détournés tels que j'ai cité, aller consulter des médiums, aller consulter des voyants. Certains vont beaucoup plus loin parce qu'ils vont jusqu'à pratiquer même la sorcellerie, sortir de leur corps alors que ceci est interdit à l'homme. Dieu considère cela comme un péché, il considère cela comme une abomination. Mais l'homme refusant de vivre dans la condition dans laquelle il est, humainement parlant, va désirer plus et va s'engager dans des trafics spirituels pour aller au-delà du naturel dans lequel Dieu l'a créé. Le deuxième jour, nous avons parlé de manifestation de l'esprit de contrôle. On avait donné plusieurs points qui nous montraient comment l'esprit de contrôle se manifestait, des points qui peuvent nous aider à discerner lorsque nous avons affaire à un esprit de contrôle. L'esprit de contrôle ne peut pas fonctionner avec la parole de Dieu. Il va chercher à contourner les Écritures puisqu'on ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour parvenir à des fins égoïstes, pour parvenir à assouvir nos convictions, notre convoitise, parce que la Bible ira totalement à l'encontre de cela. Alors, on va contourner les choses et on va mettre en place certains des procédures, des systèmes qui ne sont pas dans la parole de Dieu pour pouvoir contrôler et gérer la situation. J'avais donné un exemple hier Nous voyons par exemple des assemblées où, pour contrôler la vie des gens, pour contrôler l'argent des gens, on va exiger que celui qui met une offrande mette son nom sur l'enveloppe. Il faut qu'on sache qui a donné. Et ce qui permet à certains responsables d'église de savoir tel mois, tel n'a pas donné sa dîme. Et là, on sonne à ta porte pour dire, mais tu n'es pas sur la liste des personnes qui ont donné la dîme ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on cherche à contrôler et on instaure des programmes, des systèmes qui vont à l'encontre des Écritures. Parce que le Seigneur veut que lorsque l'on donne, que la main droite ne sache même pas ce que la main gauche fait. Et comme l'apôtre Paul nous le dit, on doit donner comme on a résolu dans notre cœur. Donc, on donne à Dieu en fonction de ce que nous sommes convenus avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas instaurer, instituer un système qui va permettre de gérer la vie des gens, de gérer le compte des gens. Celui qui est dans l'esprit de contrôle va utiliser des moyens détournés tels que les flatteries. On peut aujourd'hui nous contrôler à partir de flatteries. Donc, à force de faire des flatteries, de faire des cadeaux, des présents, quelque part, la vigilance diminue et on nous emmène à prendre des décisions qu'on n'avait pas forcément voulu. Des décisions qui vont à l'encontre des Écritures, mais nous nous sommes fait avoir contrôlés par la flatterie. Il y a d'autres qui peuvent aussi contrôler les gens par leur état de faiblesse. C'est-à-dire que la maladie dans laquelle il est, l'état de faiblesse dans laquelle il est, attire une telle pitié chez les gens qu'il arrive à les maîtriser de cette manière-là. Donc la maladie devient sa gloire, devient l'instrument par lequel il contrôle et il maîtrise les gens. Il utilise sa faiblesse pour attirer une certaine pitié qui lui permet finalement d'arriver à ses fins en manipulant les gens. On avait pris l'exemple aussi de Jézabel, qui est la volonté de prendre la place de l'homme. Lorsqu'on parle de l'esprit de Jézabel, Jézabel était une femme qui était la femme du roi Akab. Et bien que Akab était le roi, c'est elle en réalité qui dominait, c'est elle qui régnait. Donc elle régnait sur Israël indirectement au travers du roi. Le roi paraissait comme étant le roi, mais c'était la femme qui tirait les ficelles. Et nous voyons qu'à un moment donné, lorsque Jéhu, que Dieu avait établi, avait prophétisé que Jéhu viendrait et mettrait à mort cette femme-là, lorsqu'elle va apprendre que Jéhu arrive dans la ville, elle va aller se faire toute belle et se mettre à la fenêtre pour attirer Jéhu du regard. Donc on voit que dans cet esprit de contrôle peut se manifester aussi par la séduction. Et ainsi certains utilisent la séduction, utilisent ce qui est visible pour pouvoir manipuler les gens et les contrôler d'une certaine manière. Et ça, ce sont des moyens détournés que la Bible ne soutient pas. Nous devons faire les choses, conduits par le Saint-Esprit, avec l'assurance que dans le rôle que nous avons à jouer, dans les responsabilités que nous avons, c'est le Seigneur qui nous conduira et qui fera toutes choses. Ce que nous devons faire, c'est rester dans les Écritures et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. L'esprit de contrôle se manifeste aussi, nous l'avons dit, par la recherche de fonctionner par la logique de résultat. Donc, lorsqu'on veut fonctionner par la logique de résultat, c'est qu'on refuse de se limiter à ce que Dieu nous a donné. Et nous disions hier que si on doit fonctionner par le résultat, si c'est le résultat qui doit dicter notre manière de vivre et qui doit justifier est-ce que Dieu est dans l'affaire ou pas, cela voudrait dire tout simplement que Jésus-Christ a échoué. Parce que s'il était venu pour le résultat, à la croix, il est resté très peu de disciples. Tous ont fui, tous l'ont laissé. Et au-delà de ça, beaucoup qui ont entendu l'évangile ont refusé même de se convertir. Alors si c'était par rapport au nombre que le Seigneur devait venir se sacrifier, alors il ne serait jamais venu. Parce que un peu de nombre, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'il a prêché, très peu se sont convertis. Donc nous voyons que travailler dans la logique du résultat, de vouloir produire quelque chose, ne fonctionne pas avec le Seigneur. Or, la réalité d'aujourd'hui, c'est que le monde, c'est que les hommes, c'est que les chrétiens ne veulent pas se limiter à fonctionner uniquement dans l'obéissance. Jésus-Christ est venu et il a obéi à l'ordre de son Père. Il est venu uniquement pour accomplir la mission qu'il avait acceptée et il n'a pas cherché au résultat, mais il a cherché à obéir à l'ordre de Dieu. Et de cette même manière que lorsque nous voulons contrôler les choses, nous allons tout simplement désobéir pour faire les choses à notre convenance, pour faire les choses selon notre schéma, selon notre modèle. Parce qu'on veut produire quelque part pour justifier que Dieu est avec nous, on veut produire quelque part pour montrer que nous sommes capables de produire quelque chose. Or, toutes nos sources se trouvent uniquement dans le Seigneur. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 que que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour les pratiquer. Alors, dès l'instant où nous savons que le plan de Dieu pour nous est déjà défini et que les œuvres que nous devons pratiquer sont déjà préparées, nous n'avons plus besoin de travailler pour produire un résultat. Dieu nous demande tout simplement d'obéir et de faire les choses. Combien de fois nous nous sommes irrités? Combien de fois nous nous sommes fâchés parce que voulant reprendre une personne qui avait fauté, et la faute est évidente, mais la personne commence à discuter et on commence à partir sur un débat. Et souvent, ça irrite dans le cœur. On sort de là, c'est comme si on avait perdu une guerre, c'est comme si on avait perdu un combat et nous sommes mal. Parce que notre désir à nous, c'était lorsqu'on parlait à la personne, que la personne accepte, qu'elle se repente, qu'elle se déce et qu'elle en connaisse son tort. Mais lorsque Dieu nous demande tout simplement d'aller parler, contentons-nous tout simplement de parler, bien-aimés. Ce qui va se passer après, ça ne dépend plus de nous, mais ça dépend de Dieu seul. Ainsi, lorsque nous travaillons dans la logique du résultat, parce que nous voulons à tout prix voir quelque chose, maîtriser la situation pour obtenir un résultat, nous sortons tout simplement de la volonté de Dieu. Voilà quelques manifestations liées à l'attitude de contrôle lorsqu'on désire contrôler. Il y a d'autres points que nous avons partagés. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la victoire sur l'esprit de contrôle. Nous avons évoqué un petit peu le vendredi que Jésus-Christ a vaincu l'esprit de contrôle. Il a vaincu cet esprit-là. Déjà, lorsque le diable est venu le tenter dans le désert, il lui a donné toutes sortes de paroles afin de détourner Jésus-Christ de la mission de Dieu. « Si tu te prosternes devant moi, regarde tous ces royaumes, ils seront à toi. » Mais le Seigneur s'est souvenu qu'il est écrit, « Non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. » La tentation que Jésus-Christ était en train de vivre était la même tentation que Adam et Ève avaient vécue. Cependant, eux avaient échoué. Dieu leur a dit, « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. » Le diable leur a dit, pardon, « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. » Et ils ont eu la volonté de devenir comme Dieu. Mais Jésus-Christ, à qui on présente tous les royaumes, à qui le diable vient promettre toute la gloire de la terre, il a refusé d'accepter cela. Il est resté dans la condition dans laquelle il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens, dans Philippiens 2, qu'il a été souverainement élevé. Pourquoi ? Parce qu'il était égal à Dieu. Mais il n'a pas fait de cette égalité une proie arrachée. Il n'a pas voulu utiliser, manifester cette divinité pour dire « je suis capable d'eux ». La Bible dit qu'il s'est humilié, jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de renoncer à tout ce qu'il était, divinement parlant, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur l'esprit de contrôle en ce qui nous concerne, nous. Nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, être exposés à cet esprit. Et en développant, en discutant depuis vendredi, je pense qu'à certains moments, nous nous sommes peut-être retrouvés. On peut vouloir contrôler les choses, non pas simplement par la force, à cause de la force ou parce que nous voulons dominer les gens comme un dictateur. On peut vouloir contrôler les choses aussi lorsqu'on n'accepte pas le temps de Dieu. Lorsque Dieu décide qu'il nous bénira en son temps et qu'on décide de précipiter les choses parce qu'on a le sentiment que le Seigneur met trop de temps à agir, ça c'est vouloir contrôler Dieu. C'est une manière de dire « Seigneur, tu prends trop de temps, alors je vais t'aider un petit peu » en contournant la logique biblique, en contournant la logique de la conduite du Saint-Esprit et en mettant en place mes propres méthodes pour parvenir à mes fins. Et je vais donner le même exemple que j'ai donné et celui que je donne souvent. Il y a des gens qui viennent au Seigneur et qui prient, « Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi le mariage. » Mais Dieu entend cela. Et demander le mariage, ce n'est pas un péché, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Il a dit, « L'homme, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. » Je lui ferai une aide semblable. Et par la suite, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, prier pour le mariage est quelque chose de normal et de légitime. On ne doit pas en avoir honte. Maintenant, il y a le temps de l'exaucement, qui ça ne dépend que de Dieu seul. Notre part à nous, c'est de prier, c'est de formuler notre besoin, de dire au Seigneur, comme il nous encourage à le faire aussi. Mais maintenant, le temps de l'exaucement appartient à Dieu. Et dans les principes de Dieu, Dieu sait comment il va fonctionner, comment il va faire les choses pour nous bénir. Mais voilà que certaines, trouvant le temps trop long, retournent dans le monde, retournent faire des tours en boîte de nuit, s'habillent de façon compliquée pour essayer d'attirer un homme, pour essayer d'attirer une femme et pour espérer le mariage. Et là, refuser d'attendre le temps de Dieu, c'est vouloir maîtriser sa propre vie. Le temps est un paramètre très important parce que c'est le temps qui conditionne tout sur la terre. C'est en fonction du temps que nous pouvons parler des saisons. C'est en fonction du temps que nous pouvons parler des mois. C'est en fonction du temps que nous pouvons parler des heures. Donc le temps est quelque chose qui fait partie de notre vie et qui détermine quelque part notre vie. Parce que c'est avec le temps aussi que nous vieillissons. C'est avec le temps qu'on prend de l'âge, c'est avec le temps qu'on prend de l'expérience, qu'on prend de la maturité. Et lorsqu'on refuse d'accepter et de respecter le temps voulu par Dieu, c'est aussi une façon de vouloir contrôler les choses et contrôler sa vie et, en fin de compte, contrôler Dieu. Nous prenons Genèse chapitre 3. Nous revenons au commencement, Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Lorsque Dieu crée toutes choses dès le commencement, la Bible nous dit que tout était bon. Tout était bon selon le plan de Dieu, tout était bon selon la volonté de Dieu et tout était bon pour l'homme. Ainsi l'homme, en venant sur la terre, Dieu avait déjà préparé les choses à l'avance afin qu'il puisse vivre heureux et être en communion parfaite avec le Seigneur. Dieu avait créé l'homme aussi libre. Et dans la liberté qu'il avait créé l'homme, l'homme a cette capacité encore aujourd'hui de décider sur sa propre volonté. Et Dieu avait placé un arbre. Il lui a dit, cet arbre-là, tu n'y touches pas. Parce que si tu y touches, certainement tu mourras. Alors, pour nous, nous apprenons par là, nous voyons dès le début de la création, quelle était la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Ainsi, si nous avons été exposés, si nous avons été saisis, si nous vivons aujourd'hui en contrôlant les choses, en voulant faire les choses comme nous le souhaitons et non pas comme Dieu le veut, la Bible nous ramène au commencement. Et c'est au commencement que nous voyons comment le Seigneur voulait que les choses soient. Alors lorsque nous voulons rétablir les choses, nous devons revenir à la source et comprendre quelle était la volonté de Dieu dès le commencement pour l'homme. Dieu voulait que l'homme soit en communion parfaite avec lui. Même si Dieu avait donné l'autorité à l'homme de gérer la terre, de dominer sur les poissons, de dominer sur les animaux, de dominer sur toute la nature, il fallait qu'il y ait quand même un signe de respect, un signe d'autorité qui était marqué par cet arbre-là. De cette même manière qu'aujourd'hui, comme je le disais, nous avons la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous aider à revenir à l'état initial. Même si notre corps n'a pas été régénéré et que nous sommes encore dans la faiblesse liée à la chair, le Seigneur, la Bible nous dit dans Éphésiens 1:13, nous a scellés du Saint-Esprit. Ainsi, dès lors que nous devenons enfants de Dieu, nous recevons le don du Seigneur, du Saint-Esprit, qui vient vivre en nous et qui nous donne désormais la capacité d'accomplir la volonté de Dieu telle que le Seigneur l'avait voulu dès le commencement avec Adam. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il nous convaincra de péché. Par le Saint-Esprit, nous pouvons savoir lorsque nous dépassons la limite fixée par Dieu. Dans Jean 16:8, il est écrit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Donc celui aujourd'hui qui a le Saint-Esprit en lui doit être capable et est capable. Dieu nous donne les moyens de savoir que là, je vais au-delà de ce que le Seigneur a fixé pour moi. Là, je risque de transgresser la loi de Dieu parce que le Saint-Esprit au-dedans de nous nous parle. Dans le verset que je cite, dans Jean 16, 8, la Bible dit que convaincra le monde. Donc, pas simplement les chrétiens, convaincra le monde. Donc, le Saint-Esprit agit pour convaincre le monde du péché, pour convaincre le monde du mal, pour convaincre le monde de l'existence de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit a cette capacité de convaincre ceux-mêmes qui ne veulent pas de Dieu, à combien plus forte raison le Saint-Esprit aura la capacité de convaincre celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et par le Saint-Esprit, nous avons maintenant les moyens, nous avons maintenant la force de pouvoir vivre comme à l'état initial, dans l'obéissance, en communion avec le Seigneur, avec l'autorité de Dieu, pour accomplir ce que le Seigneur veut. Et par conséquent, ne plus être dans le contrôle, ne plus contrôler notre vie. Bien-aimés, beaucoup contrôlent leur vie à cause de la peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de manquer. Alors, ayant peur de manquer, ils se construisent eux-mêmes leur propre béquille, leur propre roue de secours, au cas où ça n'irait pas. Or, la Bible nous dit dans Matthieu 6 que le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit à sa peine. Dieu veut que nous vivions avec lui jour après jour. Et ce qui est pour demain, ça lui appartient. Et nous allons voir des personnes remplir les comptes en banque, au cas où. Ce n'est pas qu'il y a un projet derrière le fait d'économiser, ce n'est pas le projet d'acheter une voiture ni d'acheter une maison, c'est simplement au cas où. Mais quand on dit que je mets de l'argent au cas où, c'est au cas où quoi? Au cas où ça va mal. Au cas où il y a un pépin. Donc ce qui veut dire qu'au cas où il y a un pépin, on compte d'abord sur l'argent plus que sur Dieu. Mais l'argent que tu mets de côté, si c'est Alzheimer qui vient, tu vas faire quoi avec cet argent? Alzheimer vient frapper à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Charcot vient frapper à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Dieu nous montrera à un moment donné que ce que vous prenez pour appui et pour roue de secours, en réalité, c'est une roue de secours qui est déjà crevée. Elle ne te servira pas. Mettre de l'argent, construire des béquilles par peur, c'est vouloir maîtriser l'avenir. Or, notre secours doit venir de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Et par peur, on peut se mettre à vouloir contrôler et à gérer les choses, s'organiser d'une certaine manière pour être sûr que tout ira bien. Contrôler la vie de cette manière-là. Vous savez, bien aimé, que on peut aujourd'hui chercher à tout contrôler. Et quelquefois, le Seigneur nous observe. Il regarde parce qu'il ne s'impose dans la vie de personne. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que comme Adam a été créé, il avait une autorité. L'homme aussi, tel que nous sommes, nous avons aussi une autorité, même si nous la refusons, qui est Dieu lui-même. Ça veut dire que dès l'instant où nous voulons contrôler, c'est que nous nous mettons en opposition avec l'autorité qui a établi les choses. En quelque sorte, nous entrons dans un bras de fer. Dans un bras de fer, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Quand on fait un bras de fer, il y a un gagnant à la fin. Mais la réalité, c'est que Dieu gagnera toujours. Donc, entrer dans l'esprit de contrôle, vouloir contrôler les choses, c'est déjà courir à la défaite. C'est courir en vain. Donc, c'est une course vaine. Autant déposer les armes tout de suite, s'avouer vaincu, parce que nous avons affaire à quelqu'un qui est de loin beaucoup plus fort que nous. Donc, vouloir contrôler les choses, Dieu fera en sorte qu'il y ait des circonstances pour nous rappeler que vous ne contrôlez rien du tout. On voit beaucoup de choses qui se passent, les attentats. Pourtant, on dépense chaque année des milliards pour la sécurité. Mais tous ces milliards-là ne suffisent pas. Dieu va permettre des situations pour te montrer que tout ce que tu considérais comme étant ta roue de secours, ta béquille, qui te tiendra au cas où la chute viendra, Dieu fera en sorte de déstabiliser tout ça pour comprendre qu'il n'y a aucune sécurité dans ce monde. Vouloir contrôler les choses, Dieu montrera qu'en réalité, on ne contrôle rien. Les gens qui allaient se baigner en Indonésie, qui allaient faire du tourisme sexuel, ils faisaient leur vie. Ils avaient construit leur propre paradis sur terre avec, la monnaie qui est tellement dévaluée là-bas que lorsque tu pars avec ta monnaie, toi qui viens de l'Europe, tu es comme un roi, tu es riche. Les gens se couchaient sur les bords de plage et faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et là, c'était dans leur paradis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le tsunami est arrivé, eh bien, tout ce que vous considérez comme fort, comme appui, tout ce qui était l'objet de votre contrôle, tout a fini à l'eau. Tout a fini à l'eau et ça a été des pleurs et des pleurs pendant des mois. Jusqu'aujourd'hui, il y a des monuments, des choses qui n'ont pas été reconstruites. Parce que là où l'homme pensait être arrivé, Dieu l'a tout simplement confondu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les gens, dans Genèse 11, ont voulu construire la tour de Babel? En disant, nous allons construire une tour pour nous faire aussi un nom. Nous voulons aussi nous faire un nom. Une tour qui va jusqu'au ciel, dont nous voulons arriver jusqu'au trône de Dieu. Et les gens se mettent à bâtir sans associer Dieu. Mais lorsque Dieu a vu ça, il a dit, voilà ces gens-là qui veulent bâtir sans moi. Et je vais tout simplement confondre leur langage et tout s'est arrêté là. Donc lorsqu'on veut faire le bras de fer avec Dieu, sachant que Dieu est de loin beaucoup plus fort que nous, un jour il va créer des situations pour nous montrer que vivre sans lui, c'est vivre en vain. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc tu veux bâtir, tu veux construire sans Dieu. Un jour tu comprendras que bâtir sans Dieu a des conséquences graves dans la vie. Ne faisons pas le bras de fer avec le Seigneur, mais acceptons d'être conduits par le Seigneur tel que Dieu le veut. Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Nous allons lire même à partir du verset 3, pour rester dans le contexte, verset 1er d'ailleurs. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Amen. Le Seigneur parle là de la nouvelle naissance. Il explique le phénomène de la nouvelle naissance. Nicodème n'avait pas compris. Il pensait que c'était une opération charnelle. Or, le Seigneur lui explique, non, la nouvelle naissance est une question spirituelle. C'est celui qui meurt par rapport à sa logique de la chair, par rapport à sa logique passée et qui accepte de vivre désormais selon la logique de Dieu, selon la logique de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit et conduit par la parole de Dieu. C'est celui qui accepte désormais de vivre sous ces conditions-là, qui naît de nouveau et qui par conséquent devient aussi enfant de Dieu. Et le Seigneur va beaucoup plus loin. Il dit maintenant, puisque cette personne est née de nouveau, voilà comment elle doit fonctionner. De quelle manière elle fonctionne? Il donne l'exemple du vent. Il dit, tu entends le vent. Le vent, nous l'entendons, nous pouvons même quelquefois le ressentir physiquement sur nous. Il dit, mais tu ne sais pas d'où il vient ce vent-là. Et tu ne sais pas non plus là où il va achever sa course, là où il va. Et il dit qu'il en est ainsi de celui qui est né de Dieu. Ça veut dire que le vent le pousse à gauche, il suit le mouvement. Le vent le pousse à droite, il suit le mouvement. C'est-à-dire qu'il n'a plus de position pour lui, mais il suit simplement là où le vent du Saint-Esprit le pousse. Autrement dit, il n'est plus maître de sa vie. Et n'étant plus maître de sa vie, il n'est plus sous le contrôle de sa vie, puisque sa vie est désormais contrôlée par Dieu, par le Saint-Esprit, et là où Dieu l'envoie, il y va. Là où Dieu le pousse, il y va. Ce que Dieu lui demande de faire, il obéit, même s'il ne comprend pas tout. Mais puisque Dieu a dit, dans la confiance et dans l'assurance qu'il a, dans les promesses du Seigneur, il se dit certainement Dieu a raison. Je vais obéir et je verrai le résultat après. C'est ça que le Seigneur attend de celui qui est né de nouveau. Donc lorsque nous expérimentons et que nous vivons la nouvelle naissance, nous sommes désormais hors de l'esprit de contrôle. Mais comme je l'ai dit, Dieu nous a créés libres. Et ainsi nous sommes libres encore de notre volonté. Et il y a quelquefois au-dedans de nous une lutte, un combat. Parce que la volonté de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit, nous la connaissons. Mais il y a aussi la volonté de la chair qui est là et qui lutte. qui rentre dans le bras de fer. Et je dis souvent que l'état dans lequel Dieu nous a laissé, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on aime une personne, on ne lui impose rien. Lorsqu'on aime une personne, les choses se font délibérément, c'est-à-dire par amour. C'est un échange consenti. C'est un échange libre dans lequel personne ne se sent forcé de faire l'effort pour l'autre. Mais c'est quelque chose qui se fait uniquement par amour. C'est cette relation que Dieu veut avec nous. C'est la raison pour laquelle la chair n'a pas été régénérée. Parce que même si la chair a ses désirs qui sont totalement contraires à ceux de l'esprit, même si la chair a sa volonté, a sa convoitise, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous montre la voie de ce que le Seigneur attend. Et entre les deux, il y a ce qu'il y a de plus important, la volonté de l'homme. La volonté de l'homme que même le Seigneur ne peut pas violer, que même le Seigneur se refuse de violer, parce qu'il ne nous a pas créés pour être des robots, mais il nous a créés pour avoir une relation d'amour avec lui. Et ainsi, cette volonté que nous avons, c'est ça qui va déterminer notre propre choix d'appartenir au Seigneur. C'est pour nous dire, bien-aimés, que sortir de l'esprit de contrôle, c'est d'abord une question de choix. Le choix d'accepter de renoncer à sa vie. Le choix d'accepter que Jésus-Christ dirige notre vie. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Autrement dit, si tu n'ouvres pas, je reste aussi dehors. Dieu ne s'imposera pas dans ta vie. Il ne s'imposera pas dans ma vie, mais il se proposera toujours. C'est ça le véritable amour. On n'impose rien à l'autre, mais on lui laisse le choix de prendre sa décision et de faire le bon choix. Et nous ne pouvons pas sortir de la domination de l'esprit de contrôle si nous n'acceptons pas que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Mais ça, Dieu ne s'imposera pas. C'est d'abord un choix personnel. C'est une prise de décision. Même si la chair a ses faiblesses et qu'elle nous fait souffrir, mais dès l'instant où nous prenons la décision sincère, honnête, de dire « Seigneur, prends ma vie et conduis-moi », alors là, nous avons le soutien de Dieu. Là, nous avons l'appui du Seigneur qui va nous aider dans la tentation, qui va nous aider lorsque les choix seront difficiles. Si dans notre cœur, nous avons vraiment pris la décision de livrer notre vie entre les mains du Seigneur et de nous laisser totalement conduire par le Saint-Esprit, soyons certains, bien-aimés, que le Seigneur fera son œuvre. Il est vrai, comme la Bible le dit dans Galates 5, 16, que on nous invite à marcher par le Saint-Esprit afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Parce que la chair a des contraires, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et la Bible dit que les deux sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et c'est ce que j'expliquais lorsque je disais que ça crée une souffrance au-dedans de nous. Lorsque le désir de faire quelque chose est fort en nous, mais en même temps nous savons que le Seigneur est contre ça, il y a comme une souffrance qui est au-dedans de nous. Il y a comme une souffrance dont on ne nie pas le fait, bien-aimé, que se laisser conduire par Dieu, que laisser le Saint-Esprit dominer sur nous, on ne nie pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Il y aura comme une souffrance qui est là, mais c'est une souffrance qui est salutaire. C'est une souffrance qui prépare notre délivrance. Aujourd'hui, celui qui a consommé de la drogue pendant des années et des années et qui décide d'arrêter la drogue, bien aimé, il y aura quelques jours de souffrance. Il y aura quelques jours difficiles où le manque va se manifester et la détresse sera certainement grande. Mais cette douleur, cette souffrance qu'il vit à ce moment-là, c'est une souffrance qui prépare sa délivrance. C'est une souffrance qui est bonne parce que c'est une souffrance qui ouvre la porte du salut. Ainsi, nous aussi, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas vouloir être délivré sans passer par une souffrance. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4:1 que puisque notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, a souffert dans la chair, mais nous qui sommes ses disciples, nous devons avoir cette pensée. Le Seigneur nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître. S'il a souffert d'une manière, ses disciples aussi souffriront de la même manière. Alors, puisque l'apôtre Pierre nous dit que Jésus-Christ lui-même a souffert dans la chair, nous aussi, nous devons être armés de cette pensée-là. Et il ajoute, il dit, parce que celui qui sait souffrir dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui accepte cette souffrance d'un moment liée à la chair, c'est celui-là qui est proche de la délivrance du péché. Et il dit encore, il dit que cela est bon, afin que pour le restant des jours qui vous restent sur la terre, vous viviez comme Dieu le veut, et non plus comme vous l'avez décidé, autrefois comme vous le décidez. Mais si vous acceptez cette souffrance-là, alors vous allez entrer dans une nouvelle vie. une nouvelle vie consacrée à Dieu, une nouvelle vie mise, comment dire, à la disposition du Seigneur afin de vivre ses projets, de vivre ses plans et de ne plus contrôler notre vie, mais que le Seigneur véritablement contrôle notre vie. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Mais avant de crier cela, il a souffert pendant 33 ans. Pendant 33 ans de galère sur la terre, au milieu des hommes rebelles qui refusaient son autorité, qui refusaient son évangile, il a pris le risque de se sacrifier, même pour ceux qui allaient le renier. Il a donné sa vie, il a accepté les crachats, les insultes gratuites, les coups gratuits, les moqueries, jusqu'à ce qu'on lui perce les mains, qu'on lui perce les pieds. Mais il a dit, tout est accompli. La victoire de Jésus-Christ est passée par la douleur. Et nous aussi, si nous voulons vivre et expérimenter cette victoire, nous devons accepter la souffrance dans la chair lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans des choses que, si on nous l'avait demandé il y a quelques années, on n'aurait certainement pas accepté. Lorsque Dieu te demande d'aller t'humilier, alors que tu sais que tu avais raison dans cette affaire, il y a une douleur qui est là. Tu vas aller t'humilier devant quelqu'un, chercher à faire la paix alors que tu connais bien les intentions de la personne. Tu sais qu'en arrivant, la personne va parler, va profiter de ça encore pour enfoncer le clou. Et il y a une douleur qui est là, ça fait mal de s'humilier comme ça lorsque tu sais que tu es dans ta raison, que la justice doit te revenir. Mais Dieu te dit, humilie-toi, va et cherche la réconciliation. Ça, ça fait mal. Lorsque tu es en face d'une personne qui te parle d'une certaine manière et tu sens dedans de toi que Dieu te dit, tais-toi, ne dis rien. Pourtant, tu as les mots, tu as les arguments pour répliquer. Tu as le répondant pour rabaisser cette personne-là. Mais le Seigneur te dit, tais-toi. Donc, tu sens au-dedans de toi que Dieu t'empêche de parler. Et ça, ça fait souffrir. Au point que certains pleurent. Ils préfèrent quitter la place, aller s'isoler et crier à Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais nous n'ignons pas que cet état crée une forme de souffrance au-dedans de nous. Ça crée une forme de souffrance au-dedans de nous. Ça, on ne le nie pas. Mais c'est une souffrance qui est bonne. Parce que c'est une souffrance qui prépare notre salut. Et qui fait de Dieu notre chef, qui fait que Dieu soit au contrôle de toutes choses, et par conséquent, nous ne sommes plus exposés à faire notre propre volonté et à prendre le risque de sortir des voies du Seigneur. Nous devons accepter de nous laisser conduire, comme le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais si réellement nous sommes nés de l'Esprit, c'est de cette manière-là que nous devons fonctionner. Conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, qui est bien entendu en accord avec la parole de Dieu lui-même. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Naître de nouveau, ça veut dire c'est mourir par rapport à la vie passée. On ne peut pas dire « je suis né de nouveau » et encore attaché à ce qui est ancien. Ça montre tout simplement que nous ne sommes pas une nouvelle personne. Lorsqu'on dit que quelque chose est nouveau, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées et que toutes choses désormais sont devenues nouvelles. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur avec les rêves qu'ils avaient depuis dans le monde. Depuis dans le monde, ils avaient le désir d'être comme ça, de posséder telle et telle chose. Et quand ils viennent au Seigneur, ils veulent que Dieu exauce toutes les prières, tous leurs désirs qu'ils avaient dans le monde. Et ils s'étonnent de voir que les choses n'arrivent pas. Si toutes choses sont devenues nouvelles, on doit renoncer à tous ces projets passés et accepter que Dieu nous donne des nouveaux projets. Et si c'est du Seigneur, que son nom soit béni. Si le Seigneur veut exaucer ces choses-là, que son nom soit béni. Mais pour nous, ça ne doit plus être une condition pour suivre Dieu. Ça ne doit plus être dans nos exigences lorsque nous prions le Seigneur. Mais on doit accepter que tout soit renouvelé, afin que tout ce que nous allons désormais bâtir nouvellement soit entièrement bâti sur la parole de Dieu et uniquement construit par le Seigneur, dirigé et inspiré par Dieu. Tout ce qui est ancien doit être ancien et nous devons vivre en nouveauté de vie. Le Seigneur bien-aimé ne va pas s'associer avec le salaire du péché. Il y a des choses que nous avons acquises par le péché. Et Dieu ne s'associera jamais avec ça. Si Dieu veut nous appeler pour le servir, il commencera d'abord par nous dépouiller de tout ce que le monde pourra nous rattraper un jour. Et de dire, tu vois, celui-là il est chrétien. Mais la maison qu'il achetait là, il vendait la drogue, il achetait ça avec ça. Donc, on ne pourra jamais servir le Seigneur dans ces conditions-là. Tout ce qui nous rattache au passé et qui est d'un mauvais témoignage, le Seigneur va d'abord nous emmener à nous dépouiller de ça. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a vu cet homme-là, qui était riche et qui disait pratiquer la parole de Dieu depuis son enfance, la Bible nous dit que Jésus-Christ l'aima. Jésus-Christ a aimé cette personne. Il lui dit, mais c'est bien, tu as pratiqué la parole depuis ton enfance. Il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Débarrasse-toi de tout ce que tu considères comme étant une richesse et viens avec moi. La Bible nous dit que cet homme est reparti très triste. Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Il n'a pas pu renoncer à tout ce qui était avant la rencontre de Jésus. Il voulait venir à Jésus, mais en gardant avec lui ses richesses. Et le Seigneur a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'il est difficile à ceux qui considèrent avoir des richesses, pas simplement liées à l'argent. La richesse, ça peut être ton intelligence, ça peut être ta beauté, ça peut être ta force physique. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être été respecté, qui a fait ta réputation autrefois et que tu utilises aujourd'hui comme moyen pour t'ouvrir certaines portes, ce sont des richesses. Et Dieu dit qu'on ne peut pas le servir avec lui, avec toutes ces choses-là. Il faut qu'on fasse un choix de renoncer à tout ce qui est ancien et d'accepter de repartir à zéro afin que tous nos plans et tous nos projets soient uniquement dirigés et conduits par le Seigneur. Prenons le psaume 23. S'il y a, c'est vrai, une souffrance qui va être produite dans la chair, mais nous devons aussi voir les avantages que nous avons à nous laisser conduire par le Seigneur. On va commencer par le psaume 131, ensuite on ira dans le psaume 23. Psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Dieu a dit à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est un domaine qui m'est réservé à moi. N'entre pas dans ce domaine-là, c'est trop élevé pour toi. Si tu entres dedans, certainement que tu mourras. Dieu fixe les limites et nous dit, attention, si tu vas au-delà de la limite que je t'ai fixée, certainement tu mourras. Et voilà David qui est roi d'Israël. Roi en Israël à cette époque-là, ça veut dire qu'après Dieu, c'est lui. Au-dessus de tout le peuple, avec des droits que les rois avaient à cette époque, qui sont incomparables aux lois et aux que les hommes vivent aujourd'hui. Le roi de cette époque-là pouvait prendre le terre de qui il voulait, légitimement. Il pouvait prendre les filles de qui il voulait pour en faire des servantes. Il pouvait prendre les enfants de qui il voulait pour en faire des soldats. Il avait reçu cette autorité directement de Dieu. Mais voilà que David va s'humilier et dire non, malgré cette autorité, ce pouvoir que j'ai, je reconnais qu'il y a des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Alors quelle est la position que j'adopte? Je suis comme un enfant auprès de sa maman. Voilà l'un des privilèges, bien-aimés, de se laisser conduire par Dieu, c'est d'être comme son enfant. Aucun de nos enfants, lorsqu'ils se lèvent le matin, ne se pose la question « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ?» Il se lève, il demande « maman, j'ai faim ?» Il n'a pas de souci. Aucun de nos enfants se lève le matin en te disant « mais qu'est-ce que je vais porter comme vêtements ? Je n'en ai pas. Mes chaussures sont trouées, comment je vais faire pour les changer ?» Il se laisse là, près de ses parents. Il sait que ses parents vont pouvoir. Il se laisse conduire. Et David dit que « je suis comme un enfant » sevré auprès de sa maman. Il s'attend à Dieu. Il met son espoir en Dieu. Il se laisse tout simplement conduire par le Seigneur. Il est bon de se laisser conduire par Dieu, de se considérer et de réaliser et de vivre réellement que nous sommes ses enfants afin que lui prenne soin de nous. Comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a laissés libres. Donc lorsqu'il voit que dans notre manière de vivre et de faire, que nous sommes des adultes affermis, que nous sommes des gens forts, intelligents, capables de décider, que nous sommes forts, mais Dieu nous regarde. Il nous regarde puisque nous sommes forts. Moindre souci, tu prends ta carte, tu vas régler ce que tu as réglé. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu. Moindre souci, si la carte ne passe pas, j'appelle la sécurité sociale. La séance n'est pas là, je compte sur la CMU. La CDIC n'est pas là, je compte sur la CMU. Donc, c'est-à-dire que tout est placé pour que Dieu soit mis de côté. Et là, Dieu, lorsqu'il voit que finalement, la revue ne dépend pas de lui, il observe tout simplement. Puisqu'il a affaire à des gens qui sont déjà forts, des gens qui connaissent tout, des gens qui sont capables de décider par eux-mêmes, Dieu regarde. Mais David a dit non, moi je veux être comme un enfant. Je veux être comme un enfant. Et la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là les enfants de Dieu. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui a accepté Dieu comme son Dieu, mais aussi comme son papa. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on bénéficie de tous les privilèges d'un enfant de Dieu. Nous avons désormais accès à la présence de Dieu. Nous pouvons nous présenter devant Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ a dit « Tout est accompli », le voile du temple a été déchiré. Ce qui a symbolisé que désormais, l'accès au Père est pour nous tous qui avons cru et accepté Jésus-Christ. Être enfant de Dieu nous donne les privilèges, bien-aimés, de pouvoir prier, d'être entendu de Dieu, d'être exaucé du Seigneur, parce que nous sommes ses enfants. Lorsque Jésus-Christ parle à ses disciples dans Matthieu 6, et qu'il leur parle des réalités, des inquiétudes de la terre, mais il dit, mais ne vous inquiétez pas pour les choses de la terre, de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vêtir. Il dit, Dieu sait, votre Père sait que vous en avez besoin. Ne t'inquiète pas, c'est pourquoi j'ai dit que l'enfant qui se réveille le matin ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que ses parents connaissent ses besoins et qu'ils lui donneront au moment convenable. Et Jésus dit à ses disciples, ces choses-là, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce sont les païens qui recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données. Parce que nous sommes sur la terre, et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc nous laisser conduire par Dieu, bien-aimés, c'est être comme un enfant, et nous attendre au Seigneur. Croire que Dieu s'occupera de nous, et qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Par conséquent, ce que tu espères aujourd'hui, la chose pour laquelle tu pries peut-être depuis un certain temps, qui t'emmène dans le doute, qui t'emmène quelquefois même dans l'irritation, dans la colère vis-à-vis de Dieu, qui t'emmène quelquefois même à être jaloux des autres, en ayant le sentiment que Dieu aime l'autre plus que toi, qu'il a exaucé l'autre avant toi. Peut-être que tu demandes pour avoir un enfant, tu n'en as pas, et que tu vois que l'autre Dieu bénit, et ça crée des fois des sentiments en toi. Mais acceptons et comprenons que si Dieu ne nous accorde pas ces choses-là, c'est que lui considère qu'on n'en a pas besoin. Lequel des parents, lorsqu'il va faire les courses, un vrai parent sensé, qui ne fait pas de son enfant un enfant gâté, lequel des parents va accepter « Maman, je veux ça, tu mets dans le caddie. Papa, je veux ça, tu mets dans le caddie. » Quel parent qui veut éduquer son enfant va céder à toutes les caprices de l'enfant? On ne va pas céder parce qu'on estime que l'enfant n'en a pas besoin. Maintenant, tu marches avec l'enfant. « Tiens, ma brosse à dents est usée. » D'accord, on prend. « Ah tiens, mes chaussures sont trouées. » D'accord, on prend. Parce que le besoin est là. Et Dieu qui est notre papa sait mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Alors si aujourd'hui Dieu ne t'a pas encore exaucé, c'est que Dieu considère que pour ce qu'il attend de toi, tu n'en as pas encore besoin. Parce que nous, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous savons prendre soin de nos enfants. Quand ils sont malades, sans que les enfants le sachent, la nuit on se lève pour aller voir, pour aller prendre la température. L'enfant se lève le matin, on n'imagine pas que les parents ont veillé, que les parents sont venus surveiller pour voir si tout allait bien. De cette même manière que si nous, avec le cœur que nous avons, qui tend quelquefois à faire le mal, mais Dieu qui est bon, comment ne prendra-t-il pas soin de nous? Dieu prendra soin de nous. C'est à nous d'accepter que ce que nous lui avons demandé, s'il ne nous l'a pas encore accordé, c'est qu'il est sûr que le besoin n'est pas encore là. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Jean 5, 14 à 15, que nous avons cette assurance auprès de Dieu que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Si nous demandons selon sa volonté, maintenant, le temps que Dieu exauce, lui appartient à lui. Donc, si ce n'est pas dans sa volonté, acceptons aussi qu'il ne nous donne pas la chose que nous lui avons demandé. Et vivant de cette manière-là, en bénissant le Seigneur et en lui faisant confiance, comme ça a été le cas de David. Psaume 23. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger. Celui qui est conduit par Dieu, qui se laisse contrôler, diriger par Dieu, Dieu devient son berger. Mais qu'est-ce qu'un berger? Dans Jean 10, le Seigneur nous explique c'est quoi un berger. Il dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. C'est une manière de dire que le berger, il vit uniquement pour ses brebis, pour les protéger, pour les nourrir, pour prendre soin d'elles. C'est ça le bon berger. Et David dit que l'Éternel est mon berger. Et nous avons un berger par excellence qui a vécu ce que lui-même a dit. Il a accepté de mourir pour nous. Il a pris des risques pour nous. Donc être conduit par le Seigneur, c'est bénéficier d'être sur la bonne voie. Il dit, il me conduit dans les verts pâturages, c'est-à-dire il me conduit là où il y a la vie pour moi en tant que brebis. Donc étant dans le Seigneur, étant conduit, contrôlé par le Seigneur, nous sommes certains que Dieu nous conduira là où il fait bon pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 8, 28 et 29 que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Dans tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, c'est pour nous amener à ressembler à Jésus, de vivre réellement dans la nature de Jésus. Dans les verts pâturages où le Seigneur nous emmène, c'est pour recevoir la vie de Jésus. Mais cela est réservé à ceux qui acceptent de laisser Dieu conduire les choses. Quand il y a un bras de fer, il y a une résistance. Tu veux avancer dans une direction, l'autre pousse dans l'autre direction. Qu'est-ce qui se passe? On reste sur place. Mais le Seigneur, lui, veut nous conduire. Mais pour être conduit, il faut tout simplement faire le choix et accepter. David dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui va prendre soin de moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me conduit. Et il me conduira, il sait là où il m'emmène. Et Dieu sait aussi là où il nous conduit. Vouloir vivre et contrôler sa propre vie, bien-aimé, va nous faire sortir tout simplement du projet de Dieu. Parce que là où Dieu veut nous amener, comme il dit que nous avons été créés pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mais pour entrer et vivre dans ce projet, il faut accepter que la personne nous conduise. Bien-aimé, tu ne peux pas aujourd'hui dire que tiens, je vais dans tel pays, je prends un guide pour me conduire, et arrivé dans le pays, c'est toi qui commences à dire au guide, non, on va passer par là, on va passer par là. Mais le guide va dire, mais finalement, donc, si tu sais là où tu vas, pourquoi tu as besoin de moi? Si tu m'as pris comme guide, laisse-moi te conduire, je connais le pays mieux que toi. Donc nous aussi, si nous voulons être heureux et que nous avons choisi le Seigneur pour nous conduire sur la voie du bonheur, laissons-lui aussi la direction. Laissons-lui aussi le volant et nous conduire là où il veut. Mais nous nous montons dans la voiture avec le Seigneur comme chauffeur et c'est toi maintenant qui commences à indiquer, à changer et à embrouiller les pistes parce que tu veux faire un détour par-ci, par-là. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a un homme qui a écrit un livre et dans le sous-titre du livre, il a écrit « Où le Seigneur est Seigneur de tout, où il n'est Seigneur de rien. » C'est une manière de dire que Dieu ne peut pas être Seigneur de 99%. Ou bien on lui donne les 100%, ou bien on ne lui donne rien. Et le Seigneur va le dire dans l'Apocalypse, c'est mieux pour toi d'être froid ou d'être bouillant. Au moins là, ta position est claire. Tu ne veux pas de Dieu ou tu veux de Dieu. Si tu veux de lui, c'est à fond. Mais il dit, mais puisque tu es tiède, je te vomirai. Donc c'est-à-dire un peu, Dieu dit, je te vomirai. De ce peu-là, il ne veut pas. Ou bien Dieu dirige tout, ou bien il ne dirige rien. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Le vent souffle où il veut. Et celui qui est né de l'Esprit obéit à cette loi-là. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 3, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'assurance du Seigneur, qu'il est bon, bien-aimé, d'être dans la paix lorsque tout le monde autour s'agite parce que la peur est là. Dieu dit que pendant le déluge, il était assis sur ton trône. Donc pendant que les hommes étaient en train de s'agiter, de se lamenter, Dieu était assis sur son trône. Donc c'est pour nous dire que Dieu régnait encore. Même si les hommes étaient dans le désespoir, lui il régnait toujours. Or, cette paix que le Seigneur avait au moment où ces choses se passaient, c'est cette paix qui nous communique. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Donc c'est une véritable paix qui ne va pas, qui ne dépend pas des circonstances ou des événements. C'est une paix qui est là. Et quels que soient les troubles qui peuvent se produire autour de nous, nous sommes dans la paix. Je dis souvent, bien aimé, que les épreuves que nous vivons aujourd'hui, les difficultés que nous connaissons, mais dans le monde, les gens connaissent les mêmes difficultés. Tu peux aujourd'hui avoir des problèmes financiers, mais il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur, qui ont des problèmes financiers. Tu peux aujourd'hui être, affaibli par la maladie, mais il y a des païens qui sont aussi affaiblis par la maladie. Ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu qu'on souffre plus. Les mêmes douleurs de la terre sont exposées pour nous tous. Quand il y a eu la canicule, tout le monde a souffert de ça. Quand il y a la pluie et les tempêtes, tout le monde souffre de ça. Cependant, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Parce que devant des réalités difficiles, certains n'ayant pas le moyen de pouvoir surmonter, préfèrent tout simplement se suicider pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais celui qui est conduit par l'Éternel, qui est le bon berger, comme David dit, même dans l'ombre de la mort, lorsque tout semble fini et que la mort semble nous saisir, il dit, il restaure mon âme. Je suis dans la paix parce que Dieu est avec moi. Voilà, bien-aimé, les bénéfices de se laisser conduire par le Seigneur, c'est de bénéficier de toutes ces choses-là que le monde ne peut pas nous donner. Le monde va calmer ta peur d'une certaine manière, en te remplissant de médicaments. Que tu dors tellement que tu te lèves le matin, tu ne sais plus si nous sommes mercredi, jeudi ou vendredi. Le monde fonctionnera comme ça, qui te donne tellement de médicaments que tu as même oublié à l'heure qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. Tu oublies quelquefois même ton propre numéro de téléphone. Tu arrives à la caisse, tu as oublié le code de ta carte bleue. Ça, c'est la paix que le monde donne. Mais Dieu donne une paix que le monde ne peut pas donner. Mais cette paix est réservée à ceux qui ont accepté d'être sous le contrôle du Seigneur. Mais ceux qui décideront de contrôler leur propre vie, Dieu va tout simplement les observer. Il va leur dire, mais contrôle ta vie. Contrôle ta vie. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que quand aussi le danger viendra, quand tu auras des soucis, que tu vas m'appeler, je ne vais pas répondre. Parce que lorsque moi je suis venu à toi, tu as aussi refusé. Puisque tu avais décidé de gérer ta vie comme toi tu le voulais, alors quand ça n'ira pas, je te rappellerai que tu es dans la situation que tu as créée toi-même parce que c'est la voie que tu avais choisie. Dieu dit ceci, mais nous savons que puisque Dieu est bon et qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui, si aujourd'hui tu te repens, que tu acceptes que tu avais contrôlé ta vie jusqu'aujourd'hui, alors le Seigneur est prêt à entendre. Car la Bible nous dit dans Ésaïe 55 que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Aujourd'hui, Dieu pardonne encore et il est prêt à reprendre les choses en main, à repartir à zéro et à nous faire bénéficier de tous les privilèges qu'il accorde à ses enfants et à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà l'objectif final. Demeurer éternellement dans la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. C'est la raison pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils unique. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Mais où se trouve la vie éternelle? Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu en connais le chemin? Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu as la capacité, par tes propres efforts, d'arriver à la vie éternelle? Est-ce que tu as la capacité de planifier les choses, d'organiser ta vie pour parvenir à la vie éternelle? Loin de là, Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui est le chemin. » Se laisser conduire par Dieu, c'est rester sur le chemin tracé par le Seigneur. Ce chemin-là qui nous mène jusque dans la vie éternelle. Diriger, gérer notre vie par nous-mêmes, nous amènera en enfer, bien-aimé. Parce qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a une seule parole. Et ce n'est qu'en accord avec tout cela que nous parvenons à la vie éternelle. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Et c'est lui qui m'accompagne et qui me maintiendra jusqu'au bout. Donc, être sous la domination du Seigneur, sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est demeurer dans la voie, dans le plan, dans le projet du Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Vivre les promesses de Dieu et profiter de la bénédiction du Seigneur. Je conclue en prenant Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, au verset 1er. « La main de l'Éternel fut sur moi, Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer
auprès d'eux
autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » En conclusion, bien-aimés, nous devons nous considérer et nous regarder comme ces ossements desséchés. Des gens secs, desséchés, qui ont besoin de revivre avec Dieu, qui ont besoin que le Seigneur remplisse, nous donne un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit, une nouvelle conviction, des motivations saines, que le Seigneur soit au contrôle et que nous puissions revivre, animés et conduits par le Saint-Esprit. Il dit à son serviteur, regarde, ce qu'il voulait l'enseigner par la suite, c'était pour lui dire que ce que je peux faire avec ces ossements, je peux aussi le faire avec mon peuple. Regarde l'état de ces ossements. Ils sont secs, desséchés, ils sont morts. Ça veut dire que les gens qui, comment dire, ces gens-là qui étaient morts, c'était mort depuis longtemps. Et lorsqu'on regarde les choses avec nos yeux humains, on va se dire que c'est foutu. Il y a des gens qui se sentent tellement loin de Dieu, qui ont l'impression que repartir à zéro va prendre beaucoup de temps. Alors, étant dans leur raisonnement, ils sont tout le temps là à retarder leur choix avec le Seigneur. Ils ont le sentiment que la montagne est trop haute. Et Dieu dit à son serviteur, « Est-ce que tu crois que moi je peux faire revivre cela ? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous faire revivre ? Combien a été grand notre péché ? Combien a été grand notre rébellion vis-à-vis du Seigneur ? Combien a été puissant notre esprit de contrôle ? Dieu dit, est-ce que tu crois que je peux te faire revivre ? Alors Dieu donne l'ordre à son serviteur, dit, prophétise sur ces eaux-là. Et dis-leur qu'ils vont revivre. Je vais remettre des nerfs, je vais remettre une peau. Je vais souffler de mon esprit et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous verrez ma gloire. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu ? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu se manifeste lorsque lui est Seigneur de tout. Lorsque lui est au contrôle de toutes choses. C'est ainsi que Dieu manifestera sa gloire. Bien-aimés, commençons à obéir au Seigneur dans les plus petits des commandements. Travaillons à l'obéissance. Et je me posais la question il y a quelques jours, enfin je me suis posé il y a très longtemps, et il y a quelques jours c'est revenu encore. Lorsqu'il nous arrive quelquefois d'aller au-delà de ce qui est écrit, on se dit mais comment faire, comment s'exercer à appliquer? Et il y a comme une voix qui m'a dit, commence par appliquer le code de la route tel que c'est. Même si la ligne est droite, droite, limitée 70, reste là, tu es tout seul. Tu te poses la question, mais pourquoi ils ont mis 70 ici ? Commence par obéir à ça. Parce que obéir au code, c'est obéir aux autorités qui ont établi ce code-là. Mais les autorités qui ont établi ont même été établies par Dieu. Par conséquent, c'est obéir à Dieu. Personne ne te voit. Tu t'arrêtes à un carrefour, il y a un stop. Tu vois bien qu'il y a ni de voiture à gauche, tout est plat. Tu te dis, mais pourquoi ils ont mis un stop ici ? Et tu prends le stop comme si c'était un cédé de passage. Tu continues. Commençons par obéir. Le feu est rouge, tu t'arrêtes au rouge. Tu vois que ça va passer, c'est déjà orange. Tu sens que ça va passer rouge, mais tu justifies, tu accélères un peu. Pour justifier que, mais non, bah après tout, c'était quand même orange. Et on se donne toutes sortes de raisons. Tu te gares là où il ne faut pas te garer. Sous prétexte que tu es pressé pour arriver à l'église à l'heure. Là où c'est limité 110, tu es 130. Parce qu'il faut arriver à l'église à l'heure. Commençons par respecter toutes ces bornes-là que Dieu a placées pour nous maintenir dans l'obéissance. Ce sont des petites choses, bien-aimées. Mais si on peut déjà s'éduquer pour ces choses-là, là où nous sommes seuls dans la voiture, qu'il n'y a personne pour nous reprendre, mais nous savons que le Saint-Esprit est là. Nous savons que Dieu est là. Commençons par nous soumettre, bien-aimés, à ce qui est déjà à notre portée, à ce qui est tout près de nous. Respectons ce qu'ils ont établi. Dernièrement, je suis parti voir un match de football au stade de Rouen. Alors habituellement, quand il y a des matchs, il y a beaucoup de voitures, les gens se garent un peu comme ils veulent. J'ai aussi voulu faire comme tout le monde. Je voyais des voitures garées sur le trottoir. Moi aussi, je dis, bah, tout le monde le fait, tous les matchs, c'est comme ça. Donc, en quelque sorte, puisque c'est quand même quelque chose qui est pour la ville, la police est plus ou moins tolérante. J'ai fait comme tout le monde, je me suis garé aussi sur le trottoir. Mais c'est un trottoir, si vous le voyez, vous voyez bien que dans le coin là où il est, il y a même de l'herbe qui pousse, c'est-à-dire que ce n'est même pas entretenu, pour dire qu'il n'y a pas de passage. Mais je me suis mis là. Et puis je reçois une maison de contravention, stationnement gênant. J'ai dit, sur un trottoir là où même la verdure a poussé, on voit bien que le... Mais c'était sur le trottoir. Je m'attendais à avoir une amende de 15, de 20 euros, 135 euros. J'ai dit, 135 euros pour le trottoir. Bien aimé, je n'ai pas murmuré longtemps. J'ai dit non, ben voilà, je n'avais qu'à pas faire comme les autres. Il fallait respecter. 135 euros. Donc j'appelle notre frère qui est policier. J'ai dit, mais il y a une erreur. Je n'ai jamais vu une amende de 135 euros parce qu'on est mal garé. Donc lui aussi va mener son enquête. Il me dit, ben si, il y a des nouvelles lois, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas la police nationale, ça doit être la police municipale. Comme les deux se font la guerre, ils rejettent la faute sur l'autre pour dire c'est la police municipale, certainement. Mais c'est la nouvelle loi, donc ils ont mis le paquet, ils ont le droit de faire ça. 135 euros, parce que tu t'es garé 1h30 sur le trottoir. Ça paraît abusé, bien-aimé. Mais c'est la loi, il fallait la respecter tout simplement. Il fallait la respecter tout simplement. Et toutes ces choses-là m'ont appris que désormais, même lorsque je dois aller visiter quelqu'un, il n'y a pas de place. Une fois, je me suis garé à 10 minutes de marche. J'ai dit, je préfère me garer loin, là où je n'aurai pas de problème, je vais marcher. J'ai sorti le parapluie, sous la pluie, j'ai marché. Voilà, j'ai dit, donner 135 euros, ce n'était pas prévu. Or, c'est 335 euros qui auraient pu servir pour l'œuvre de Dieu et ça part comme ça dans les caisses de l'État. Mais à qui la faute? C'était de ma faute. Respectons les petits commandements. Je n'ai pas respecté l'ordre qui avait été établi. La sanction a été immédiate. La sanction a été immédiate. Et puis quand ça vient par surprise. Hein, parce que tu reprends ta voiture, des fois l'équipe a gagné, tu es content, tu repars dans la voiture tranquillement. Le lendemain, l'amende arrive à la maison, surpris. Et puis, souvent, ça arrive au moment où les comptes aussi étaient difficiles. Tu ne t'y attendais pas. 135 euros. Même déjà quand c'est 50 euros, ça fait mal. Mais 135 euros, c'est arrivé comme ça. Que Dieu soit béni. Ça a été un enseignement. Obéissons dans ce qui est petit, bien-aimé. Apprenons à nous laisser diriger et contrôler par le Seigneur, même dans les petites choses. Arrêtons de gérer nos vies, de contrôler nos vies. Parce que faire le bras de fer avec Dieu, certainement que nous serons perdants. Dieu ne perd pas, Dieu n'échoue jamais. Donc si le Seigneur a établi les choses d'une certaine manière, faisons-lui confiance qu'il ne s'est pas trompé. Alléluia. Arrêtons de bâtir nos tours de Babel seuls, en laissant le Seigneur de côté. Vivons les choses comme le Seigneur veut que nous puissions les vivre. Que ce soit sur un point de vue familial, au point de vue de la société, dans l'Église, faisons en sorte que la parole de Dieu soit respectée. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen.